Vous écoutez France Culture.
L'heure du journal avec vous, Antoine Maret. Bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous. L'armée syrienne est entrée dans un secteur du nord du pays après un appel à l'aide des forces kurdes qui craignent en fait une offensive de la Turquie après l'annonce du retrait des 2000 militaires américains déployés en Syrie.
Plus de 300 migrants ont débarqué ce matin dans le sud de l'Espagne. Ils avaient été secourus il y a une semaine au large de la Libye par une ONG espagnole.
L'invité de ce journal sera Sébastien Maillard. Il est directeur de l'Institut Jacques Delors. Nous évoquerons avec lui 2019, année de tous les dangers pour l'Europe.
Une nouvelle affaire Benalla qui empoisonne l'Elysée depuis hier. Mediapart a révélé que l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron a continué à voyager avec ses passeports diplomatiques malgré sa mise à pied. Le Quai d'Orsay affirme avoir demandé à Alexandre Benalla de lui restituer ses passeports diplomatiques sans succès.
Midi 55, seconde partie de la Grande Table avec vous, Raphaël.
Eh bien écoutez, on va parler à la fois de sciences sociales et de sciences cognitives et on va essayer de faire la réconciliation des deux, ce qui est une affaire très compliquée en ce moment. On reçoit Laurent Cordonnier qui est sociologue et Hervé Mazurel qui est historien.
On vous retrouve dans 24 minutes. L'armée syrienne est entrée dans un secteur du nord du pays après un appel à l'aide des forces kurdes. Les unités de protection du peuple craignent en fait une offensive de la Turquie dans cette région après l'annonce du retrait des 2000 militaires américains déployés en Syrie. Bonjour Aurélien Colli.
Bonjour Antoine.
Vous êtes notre correspondant à Beyrouth. L'armée a annoncé dans la matinée son entrée dans la ville clé de Minbej.
Oui, c'était le scénario attendu après l'annonce du retrait américain, lâché par Washington, bien qu'ils aient combattu l'État islamique. Seuls face à la Turquie, qui les assimile aux séparatistes du PKK qu'elle combat chez elle, et bien les Kurdes de Syrie ont finalement appelé le régime de Damas à la rescousse. Dans un communiqué, les unités de protection du peuple ont invité les forces gouvernementales à se déployer dans les régions qu'elles contrôlent, le nord-est de la Syrie, où des troupes syriennes ont commencé à progresser ce matin, en prenant position à Manbij, vous le disiez, à quelques kilomètres de la frontière avec la Turquie. La Turquie qui amasse, elle, depuis des jours, des forces armées pour lancer une offensive contre les Kurdes. Alors, au contraire de l'opposition syrienne, jamais les Kurdes n'ont réclamé le départ de Bachar al-Assad, simplement de l'autonomie que le régime syrien est sans doute prêt à leur offrir en échange de son retour dans cette région riche. Le régime qui avait aussi ouvert déjà une porte de sortie aux Kurdes au printemps dernier, quand l'armée turque, épaulée par des milices djihadistes, les avait chassés de la région d'Afrin. Ce qui est sûr, c'est que le retrait américain a rebattu les cartes en Syrie. Moscou, parrain, protecteur du régime, a d'ailleurs salué tout à l'heure le déploiement de l'armée syrienne dans le nord. Désormais, il apparaît peu probable que la Turquie lance son offensive. Ce serait risquer une confrontation directe avec l'armée syrienne, mais aussi ses alliés iraniens, voire russes.
Merci à vous, Aurélien Colli. Ils sont plus de 300 migrants. Ils ont été secourus il y a une semaine au large de la Libye par une ONG espagnole et depuis, ils cherchaient un pays d'accueil. Refusé par l'Italie et Malte, c'est finalement en Espagne qu'ils ont pu débarquer ce matin. Bonjour Marie-Hélène Ballestero.
Antoine.
Vous êtes notre correspondante à Madrid. Le bateau dans lequel se trouvaient ces migrants, venus notamment de Somalie, du Nigeria ou du Mali, a accosté en fait dans la matinée dans le port de Crinavis et dans la baie de Gibraltar.
C'est bien ça, Antoine. Et je voulais démarrer avec un tweet qui a été posté ce matin par cette association espagnole qui dit « La joie, l'espoir et l'incertitude descendent de l'Open Arms, mais au moins ils sont vivants et saufs ». Comme vous le disiez, en tout, ce sont plus de 300 migrants qui sont arrivés tôt ce matin au port d'Alcatraz en Andalousie. 139 sont des mineurs. Alors, selon l'ONG espagnole, une vingtaine de nationalités sont représentées et comme vous le disiez, la plupart sont originaires de Somalie. À leur arrivée, ils ont été accueillis par les volontaires de la Croix-Rouge espagnole chargés de leur fournir vêtements, nourriture et assistance médicale. D'après le directeur de Proactiva Open Arms, Oscar Camps, ils sont tous très fatigués après cette longue traversée de 8 jours, mais dans l'ensemble, ils vont bien et ne présentent aucune pathologie grave. Après l'accueil, c'est la police qui va procéder à l'identification de ces migrants avant d'être transférés vers des lieux d'accueil. Depuis son arrivée au pouvoir début juin, le socialiste Pedro Sanchez a accepté que plusieurs bateaux humanitaires débarquent en Espagne alors que les partis conservateurs de l'opposition sont de plus en plus critiques. En premier lieu, la formation d'extrême droite Vox, qui a fait un très bon score lors des dernières élections régionales andalouses début décembre et dont la lutte contre l'immigration est devenue l'un de ses chevaux de bataille. Alors en Espagne, la pression migratoire ne cesse d'augmenter. Le pays est devenu cette année la première porte d'accès des migrants illégaux en Europe. Plus de 56 000 sont arrivés par la mer depuis le début de l'année et 769 sont morts dans la traversée.
Merci à vous Marie-Hélène Ballestero. Bonjour Sébastien Maillard.
Bonjour.
Vous êtes l'invité de ce journal. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut Jacques Delors. Cette question des migrants, c'est l'une des lignes de fracture au sein de l'Union européenne.
Ça va être en tout cas un des thèmes majeurs de la campagne des européennes l'année prochaine. Et on a déjà vu que cette année, combien le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, en fait son thème de prédilection pour gagner des points dans les sondages. Il ne cherche pas en fait à avoir de solution. Et on a vu lors des dernières réunions des ministres de l'Intérieur européens, il existe des projets de loi, le règlement de Dublin est à réformer. Mais personne n'a envie de trouver de solution, en tout cas pas du côté italien notamment. Puisque tant qu'on n'a pas eu les élections européennes, c'est en fait il n'est pas du tout dans l'intérêt de Matteo Salvini de trouver une solution à ce problème à ce stade. Et au contraire, on réagit au cas par cas, comme dans le cas présent ou autrefois avec l'Aquarius. Mais ça montre effectivement tout le problème de la solidarité qu'il faut bien organiser, puisque même si on est très loin des flux majeurs qu'on a eu en 2015-2016, on est quand même plus du tout dans les mêmes quantités, mais quand même on n'est pas du tout à l'abri de nouveaux flux. Donc la crise est contenue un petit peu, sauf en Espagne, mais elle est surtout pas du tout réglée en profondeur, et ça va être un thème majeur de campagne des européennes.
On va avoir l'occasion de reparler des européennes, mais d'abord parlons de l'Union européenne qui déplore la décision des autorités de la République démocratique du Congo d'expulser son ambassadeur à Kinshasa. Cette sanction prise par la RDC est en fait une conséquence de la prolongation des sanctions de Bruxelles contre 14 responsables congolais accusés de violation des droits de l'homme. Bonjour Angélique Bouin.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante à Bruxelles. Le gouvernement congolais demandait la levée ou la suspension des sanctions européennes jusqu'à la tenue des élections générales de dimanche, mais Bruxelles ne l'a pas entendu de cette oreille.
Oui, et ici on se dit surpris par cette décision que l'on juge totalement injustifiée et contre-productive. Bart Ouvry, qui représente donc l'Union dans le pays, a été invité à faire ses valises pour sanctionner un comportement qualifié de répréhensible par le ministre des Affaires étrangères congolais et dans le cadre de la réciprocité, mesure de rétorsion. Donc effectivement, après la reconduction il y a 15 jours par Bruxelles de sanctions contre 14 officiels congolais proches du président Kabila et en particulier contre son dauphin Ramazani Shadary, candidat du pouvoir à l'élection présidentielle de dimanche. Kinshasa considère que l'opposition se prévalait de ces sanctions pour le discréditer et demandait donc leur suspension. Ancien ministre de l'Intérieur, précisons que Shadary est sur la liste noire de l'Union depuis 2017 pour des violations répétées des droits de l'homme, arrestations d'opposants et usage disproportionné de la force entre 2016 et 2017. Le 10 décembre dernier, le Conseil a prolongé ces sanctions d'un an, tout en se disant prêt à les revoir après les élections, à les adapter en conséquence, mais les a donc maintenues. L'ambassadeur Bart Ouvry, de nationalité belge, a jusqu'à demain soir pour quitter le pays. C'est un nouvel épisode du bras de fer entre les Occidentaux et le régime de Joseph Kabila. Depuis 2017, l'Union européenne n'a pas cessé de réclamer des élections transparentes en RDC, ouvertes à tous, avec une participation réelle des femmes au scrutin, avait encore précisé en novembre dernier la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères, Federica Mogherini, et cela dans le respect de la liberté de la presse et du droit à manifester.
Merci à vous, Angélique Bouin. Dans l'actualité française, cette nouvelle affaire Benalla qui empoisonne l'Élysée depuis hier. Mediapart a révélé que l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron a continué à voyager avec ses passeports diplomatiques malgré sa mise à pied. Il les a utilisés ces dernières semaines pour entrer dans différents pays africains ainsi qu'en Israël. Bonjour Bertrand Galifet.
Bonjour Antoine.
Le Quai d'Orsay affirme avoir demandé à Alexandre Benalla de lui restituer ses passeports diplomatiques sans succès.
En envoyant une lettre recommandée le 26 juillet à Alexandre Benalla, qui s'est contenté d'accuser réception de ce courrier quelques jours plus tard, mais sans restituer les passeports diplomatiques. Ensuite, le Quai d'Orsay n'a pas relancé l'ancien employé de l'Élysée jusqu'à ce que la presse fasse état d'une possible utilisation de l'un de ses passeports dans le cadre de la tournée africaine de Benalla. Voici les explications d'Agnès van der Mulle, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères.
Apparemment, il l'aurait utilisé. Ces informations de presse, un, nous l'ignorions. Deux, je ne sais pas, et on ne sommes pas en mesure à ce stade de savoir si c'est confirmé ou pas. Nous, on le considérait comme désormais caduc. Est-ce qu'il a présenté son passeport diplomatique en quittant la France? On n'en sait rien, au fond. Mais en revanche, si l'utilisation était avérée, à ce moment-là, il y a peut-être violation de la loi pénale en utilisation d'un document officiel alors qu'il n'avait plus le droit de l'utiliser.
Rien ne prouve en effet qu'Alexandre Benalla ait présenté présenté l'un de ses passeports diplomatiques pour sortir du territoire français. Il aurait pu en réserver l'utilisation à l'entrée sur le sol tchadien. Beaucoup de questions restent donc sans réponse en cette mi-journée. S'agit-il d'un dysfonctionnement administratif? Le Quai d'Orsay a-t-il appliqué une procédure minimum pour tenter de récupérer les fameux passeports? La médiatisation de l'affaire va obliger en tout cas les pouvoirs publics à apporter des explications.
Merci à vous Bertrand Galichet. C'est une nouvelle ombre au-dessus de la Macronie, déjà bien mal en point avec le mouvement des Gilets jaunes. Et alors que les européennes approchent, le scrutin aura lieu le 26 mai prochain, chacun tente de peaufiner ses stratégies face aux Gilets jaunes. Il y a ceux qui veulent surfer sur ce mouvement, comme Florian Philippot qui a déposé la marque à l'INPI. Et il y a ceux qui aimeraient bien voir une liste gilet jaune émerger. C'est le cas de la majorité. Bonjour Steven Goyer.
Bonjour Antoine.
La République En Marche fait le pari, en fait, suivant: une liste gilet jaune diviserait l'opposition.
Et si les gilets jaunes devenaient finalement les alliés objectifs d'Emmanuel Macron pour ce scrutin européen? Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, n'a-t-il pas lui-même poussé les mécontents à se muer en force politique pour se confronter au vote? Qu'ils s'organisent, qu'ils fassent une plateforme de propositions et qu'ils aillent aux élections, a-t-il déclaré il y a une dizaine de jours sur le plateau de France 3, tout en ajoutant que l'objectif n'est justement pas de diviser l'opposition. Mais en soi, La République En Marche peut juste observer la structuration du mouvement et attendre sereinement de possibles créations de listes. Et pour cause, ce n'est pas forcément la Startup Nation qui occupe aujourd'hui les ronds-points. Cet électorat, quand il vote, il est assez cantonné du côté des autres partis. On peut le voir facilement sur les récents sondages avec les hypothèses avec et sans liste gilet jaune. Avec, ce sont le Rassemblement National et la gauche qui verraient leur score réduit à 21% pour le premier, à 10,5% côté Insoumis et 6% pour Benoît Hamon. Sans liste gilet jaune, le parti de Marine Le Pen engrangerait 24% d'intention de vote. Dans un cas comme dans l'autre, le score de La République En Marche, lui, reste à 19%. Alors, difficile de tirer des conclusions définitives 5 mois avant le scrutin, d'abord parce que les choses évoluent très vite. La dernière élection présidentielle nous l'a rappelé avec fracas, mais aussi parce que les Gilets jaunes avancent pour l'instant de manière divisée, avec une création de liste possible aux côtés de l'écrivain Alexandre Jardin, une autre avec le chanteur Francis Lalanne, mais surtout parce qu'il faut désormais trouver une cohérence dans toutes les revendications entendues ces dernières semaines. Un long travail en perspective.
Merci à vous, Steven Goyer. Et une nouvelle conséquence de la mobilisation des Gilets jaunes, c'est la destruction des radars fixes un peu partout dans l'Hexagone. Selon le site radarauto.com, qui a regroupé les données de 21 départements, près des 2/3 seraient aujourd'hui hors service. Et c'est d'autant plus vrai depuis le début du mouvement de protestation autour des ronds-points à la mi-novembre. Des radars dégradés, recouverts de peinture cassée ou incendiée, qui pourraient coûter plusieurs dizaines de millions d'euros à l'État. Du côté des associations de victimes, l'absence de contrôle fait craindre un retour de vitesse, la vitesse sur les routes les plus dangereuses. C'est en tout cas ce qu'explique Chantal Perrichon. Elle est présidente de la Ligue contre la violence routière.
Personne ne sera surpris s'il y a une remontée du nombre de morts suite à la destruction massive à laquelle nous assistons avec les radars sur les bords des routes. Il faut rappeler qu'il s'agit d'une minorité violente de casseurs qui s'en prennent à un système qui a permis, depuis 2002, d'épargner plus de 40 000 vies. Est-ce que l'on veut revenir à cette époque que Jacques Chirac qualifiait de barbare, la barbarie sur nos routes? Qu'est-ce que ces gens souhaitent? Est-ce que ces personnes, lorsqu'elles sont en opposition avec un programme scolaire, vont se mettre à détruire les écoles? Nous déplorons qu'en cette période de fin d'année, cette période également de début d'année, des dizaines et des dizaines de familles se retrouvent unies parce qu'il y a le drame qui va les unir, par la douleur. Alors il faut que cela cesse.
Le bilan de l'incendie qui s'est déclaré hier soir dans un immeuble HLM de Bobigny s'est alourdi après la mort d'une 4e personne des suites de ses blessures. Le bilan est désormais de 4 morts et 5 blessés. Le feu est parti vers 21h30 d'un appartement du premier étage. L'immeuble n'était pas insalubre, c'est ce qu'affirme le maire de Bobigny, qui ajoute que pour l'heure, c'est l'hypothèse d'un accident domestique qui est privilégiée. Midi passé de 44 minutes sur France Culture, c'est l'heure de la séquence interview avec notre invité Sébastien Maillard. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut Jacques Delors. On a entendu le mouvement des Gilets jaunes qui accapare une partie du débat, en tout cas en France, des européennes. Est-ce que en France, parce qu'on vote dans 27 pays, rappelons-le, une fois de plus, le débat, la campagne va être très franco-centrée?
C'est pas évident, puisqu'on peut s'attendre au contraire à ce que ces élections européennes soient pour une fois vraiment européenne. On a parlé tout à l'heure des migrants, qui est une question qui traverse l'ensemble des pays qui étaient. Donc on aura des thèmes transnationaux, sans doute beaucoup plus que dans les fois d'avant. Et on peut aussi s'attendre à ce que des leaders de différents pays, je pense à Matteo Salvini justement qu'on citait tout à l'heure avec Marine Le Pen, fassent des meetings communs. Donc la campagne risque d'être beaucoup plus européenne par essence qu'autrefois. Après, effectivement, il faut voir comment les Gilets jaunes arrivent ou non à s'immiscer dans ce débat et à constituer leur propre liste. Ça, c'est un débat franco-français.
Question de Stéphane Robert, chef du service politique de France Culture.
Avant de se projeter vers les européennes, on va faire peut-être un petit bilan de 2018 pour l'Union européenne. Est-ce que cette année 2018 n'est pas pour l'Europe un rendez-vous manqué? Rendez-vous de Macron avec l'Europe et rendez-vous de Macron avec Merkel?
C'est vrai qu'on avait démarré avec de grands, beaux, enthousiastes discours. On se souvient des discours même l'année dernière d'Athènes, de la Sorbonne. Et puis après, il y a eu ce prix Charlemagne remis au président Macron avec sa chapelle. Il y a encore eu récemment un discours au Bundestag. Mais c'est des discours qui restent finalement, qui tombent à plat. Et qui, côté allemand, n'ont pas forcément inspiré. Certes, Angela Merkel lui a répondu tardivement via une interview dans la presse allemande. Mais on sent bien que l'Allemagne n'est pas au rendez-vous, n'avait pas de rendez-vous manqué. C'est vrai qu'on avait imaginé que cette année 2018 avait une grande fenêtre de tir pour avancer sur certains sujets et arriver à ces élections européennes avec des choses concrètes. Notamment Bruno Le Maire s'est battu comme un diable tout l'automne pour essayer d'obtenir une taxe sur les géants du numérique, la fameuse taxe GAFA, sans y aboutir. Et finalement, elle va être mise en œuvre en France seulement pour le moment. Donc, effectivement, non, ça n'a pas pris. Le franco-allemand existe. Il y a un dialogue permanent à tous les niveaux, pas seulement au plus haut niveau entre la chancelière et le président, mais dans les administrations. On se parle toujours. Mais je dirais que c'est un couple stérile. C'est-à-dire qu'il n'a pas débouché sur grand-chose à ce stade.
Est-ce qu'il y a eu un élan pour le projet d'Emmanuel Macron, tel qu'il l'a défini en 2017, à l'automne 2017, quand il a fait son discours, vous le disiez, à Athènes et ensuite juste après à la Sorbonne? Est-ce qu'il y a eu un élan de nos partenaires européens pour ce qu'ils proposaient, notamment un budget de la zone euro, un ministre des Finances de la zone euro?
Non, du tout. En fait, ce discours de la Sorbonne, je dirais, a fait peur. Il y avait presque trop de propositions. Il y en avait, je crois, on a recensé plus de 70. Je me souviens d'un diplomate allemand qui disait que c'était comme un feu d'artifice. Alors, c'était très beau. Mais après, le feu d'artifice, une fois qu'il se dissipe, voilà, il ne reste plus grand-chose. Et il a peut-être pris ses partenaires de court. En tous les cas, ils ont eu l'impression d'avoir devant eux un beau jardin à la française présenté, mais sans savoir forcément par où le prendre et sans forcément hiérarchie aussi des priorités. Et finalement, l'Allemagne s'est montrée, je pense à elle parce qu'au départ, c'est quand même vers elle qu'il s'était tourné. Le discours de la Sorbonne était exprès de prononcer juste au lendemain des élections législatives allemandes. Eh bien, l'Allemagne est assez échaudée, en fait, après la crise de l'euro, la crise des migrants. Elle temporise tout et elle a presque peur d'avancer sur l'Europe aujourd'hui. Et donc, effectivement, ça a été une année perdue pour Macron à ce niveau-là.
Il était très populaire pourtant en Allemagne il y a encore quelques mois, Emmanuel Macron.
Oui, là, la personne est populaire, même au Danemark, où il a fait un voyage qui a d'État, qui a bien marché. Mais et autant peut-être sur le sujet de la défense, il peut trouver une oreille là plus attentive. Mais en ce qui concerne, par exemple, le budget de la zone euro, il y a eu certes un accord au dernier sommet européen pour. On s'est mis d'accord sur le mot budget de zone euro, mais en réalité, ce n'est pas un budget de la zone euro. On n'a pas le montant. C'est ça une ligne dans le cadre du budget pluriannuel européen. Et donc, la France a réussi à obtenir que le principe soit écrit, mais tout reste à faire, tout reste à faire.
Ce que vous nous dites, c'est qu'il n'y a véritablement jamais eu de perspective de faire avancer l'Europe avec l'arrivée d'Emmanuel Macron à la présidence française.
Disons, Emmanuel Macron, lui, a sincèrement envie de faire avancer l'Europe. On ne peut pas lui retirer ça. Après, d'une part, c'est pas sûr que, pour reprendre une expression de De Gaulle, que l'intendance suive, c'est-à-dire que l'administration française soit aussi européenne que lui, d'une part. D'autre part, il n'a pas rencontré au niveau européen d'interlocuteurs aussi enthousiastes que lui pour avancer. Donc, il s'est trouvé isolé. Et en plus, aujourd'hui, il se retrouve avec un capital politique sérieusement entamé. Lorsque les Allemands voient que le chef de l'État français ne veut pas tenir sa capitale, effectivement, il devient moins crédible, et encore plus lorsqu'il en fera à nouveau les 3%.
Est-ce qu'il n'y a pas un problème de leadership aujourd'hui en Europe avec le règne finissant d'Angela Merkel en Allemagne?
Si, clairement, on aborde ces élections européennes à un moment où, d'une part, on a plein de gouvernements très fragiles, des coalitions Alors il y a les plus baroques comme en Italie, on ne sait pas combien de temps elles peuvent tenir, mais même la coalition allemande elle-même est tiraillée et se cherche. Et par ailleurs, on a des gouvernements minoritaires qui peuvent d'un jour à l'autre tomber. Et donc il y a une absence de leadership. Emmanuel Macron l'a incarné en ce qui concerne le versant pro-européen, parce que finalement, le leadership, il y en a, si on concerne Matteo Salvini, effectivement, s'impose aujourd'hui comme un des plus grands leaders européens.
Si on se projette un petit peu du coup sur en direction des élections européennes de mai 2019, qu'est-ce qui peut changer potentiellement? On avait un bloc pro-européen qui était relativement fort avec les sociaux-démocrates et les conservateurs et une alliance qui se faisait un peu comme ça. Est-ce que ça peut évoluer? Est-ce qu'il y a un risque soit que les populistes arrivent en force et est-ce qu'il y a un risque de morcellement et de faire en sorte que politiquement le Parlement européen devienne difficilement gouvernable?
Alors, je serais très prudent, puisque comme vous le disiez, votre journaliste, on est quand même à... Il peut se passer encore beaucoup de choses d'ici le 26 mai, mais à ce stade, en effet, on est habitué à un Parlement européen un peu à l'allemande, avec un bloc social-démocrate, un bloc chrétien-démocrate qui faisait à eux deux avec la majorité, et ça a bien fonctionné longtemps comme ça. Là, on s'attend à un Parlement européen éclaté, avec beaucoup de groupes différents. Les deux n'arriveront pas à avoir la majorité, les deux grands familles politiques n'arriveront pas à avoir la majorité à elles seules, elles devront composer avec les Verts, avec les libéraux, avec peut-être d'autres. C'est pas pour autant que les forces europhobes arriveront elles-mêmes à s'entendre, puisque souvent elles n'ont pas du tout les mêmes positions. On l'a vu d'ailleurs dans la crise italienne sur le budget, que Matteo Salvini n'était plus suivi par ses autres collègues des autres pays sur le budget italien. Donc du coup, on ne sait pas forcément qu'il y ait une grande famille europhobe qui s'imposera, mais des coalitions beaucoup plus compliquées à faire, et donc il faudra trouver un président de la Commission européenne qui est la confiance de groupes beaucoup plus différents qu'à ce stade.
On parle beaucoup de la potentielle montée des populismes au moment de ces élections européennes.
Oui, on l'a vu d'ailleurs pendant toute cette année à travers les élections nationales qui ont lieu en Italie, en Hongrie, en Slovénie, en Suède et ailleurs, oui.
Ce dont on parle peut-être un petit peu moins, c'est de la poussée écologiste qu'on a vue notamment en Allemagne, mais aussi au Luxembourg ou en Belgique. Est-ce qu'il y a potentiellement une possible poussée des écologistes en Europe, et qu'est-ce que ça révèle, selon vous?
C'est vrai qu'on l'a vu dans les élections régionales en Bavière, le même dimanche en Luxembourg pour leur législative, et puis au municipal belge. En France, pour un moment, dans les sondages, c'est pas le cas, mais les écologistes français sont plutôt divisés. En revanche, effectivement, en Allemagne, c'est une vraie donnée. Et la percée des Verts est une autre traduction de l'affaissement des partis traditionnels, qu'ils soient de gauche ou de droite. Et ça, toute l'année 2018 a montré à quel point les partis de gouvernement traditionnels, socialistes ou de droite, conservateurs, étaient vraiment en peine. Et donc, c'est une chance pour les Verts d'arriver à émerger. D'ailleurs, très souvent, le scrutin européen leur est très favorable.
Merci beaucoup à vous, Sébastien Maillard, d'avoir accepté notre invitation dans le journal de France Culture. On va maintenant parler d'un élément essentiel de la magie de Noël, les rennes. Eh bien, ils ont du souci à se faire en Norvège, puisque le gouvernement lance une campagne d'abattage de rennes. L'animal en surpopulation dans le pays représenterait une menace pour l'environnement. Bonjour Élodie Rabel.
Bonjour.
La magie de Noël ne semble plus opérer en Norvège.
Il était une fois en Norvège un peuple ancestral qu'on appelle les Samis. Les Samis sont les premiers habitants des régions d'Europe du Nord et détiennent le secret d'une pratique immémorielle. L'élevage de rennes. Le conte de Noël s'arrête là, ou plutôt en 2013, quand le gouvernement norvégien ordonne aux Samis d'exécuter une partie de leurs rennes, au motif que ces derniers, en surnombre, détruiraient la toundra, ce paysage végétal caractéristique des régions polaires. C'est là qu'intervient Jofset Antesara, un jeune Sami de 23 ans, éleveur de rennes, et le premier à s'engager dans une bataille juridique avec l'État. Pour lui, les arguments du gouvernement ne tiennent pas. Comment penser que la mesure puisse améliorer l'économie Sami quand on réduit à peau de chagrin les élevages de rennes? Comment peut-on avancer l'argument écologique et dans le même temps permettre l'exploitation de gaz et de pétrole dans l'Arctique? Ce désormais héros Sami porte l'affaire jusqu'au Comité des droits de l'homme de l'ONU, mais lui et les 230 autres éleveurs de rennes n'ont plus que jusqu'au 1er janvier prochain pour abattre leurs animaux. Autrement, ils s'exposent à 1 700 € d'amende par mois et à une exécution forcée de leurs troupeaux.
Merci Élodie Rabel. Cet après-midi, du soleil en Bretagne, dans le nord et le sud-est, ailleurs temps couvert. Il fera 2 degrés à Dijon, 4 à Paris, 10 à Brest, 14 à Ajaccio. C'est la fin de cette édition préparée avec François-Charles Domergue. Prochain journal à 18h. Il vous sera présenté par Tara Schlegel.